France Musique.
Merci Coco. Et nous ne sommes pas encore à Montpellier pour la matinale en direct du festival Radio France Occitanie Montpellier avec Clément Rochefort. Nous allons le retrouver dans quelques instants. Suite à un problème de liaison, nous ne sommes pas en mesure de le retrouver immédiatement. Alors je vous propose, eh bien, en attendant cela, de patienter en musique avec Les Jeux d'eau de la Villa d'Est de Franz Liszt, interprété par Zoltán Kocsis.
Thank you.
Les jeux d'eau à la Villa d'Est de Franz Liszt, interprété par Zoltán Kocsis, extrait de ses troisième année de pèlerinage. Il est 7h38 sur France Musique et nous avons donc un petit problème de liaison pour retrouver notre direct en direct du festival de Radio France Occitanie-Montpellier, Clément Rochefort. Alors nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. Je vous propose bien évidemment de poursuivre malgré tout en écoutant de la musique. Et cette fois-ci, eh bien, la fantaisie de concert sur des thèmes de Carmen, opus 25 de Pablo de Sarasate, interprété au violon par Itzhak Perlman.
Thank you.
La fantaisie de concert sur des thèmes de Carmen, opus 25 de Pablo de Sarasate, interprété ici par Itzhak Perlman. Le Royal Philharmonic Orchestra est dirigé par Laurence Foster. Vous êtes sur France Musique, il est 7h50. Nous sommes désolés, nous ne pouvons pas pour l'instant rejoindre le festival de Montpellier avec notre matinale et Clément Rochefort qui nous y attend, mais nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. Je vous propose toujours de patienter en musique avec cette fois-ci l'ouverture de l'italienne à Alger de Gioachino Rossini par le Philharmonia Orchestra et dirigé par Carlo Maria Giulini.
Thank you.
l'ouverture de l'Italienne à Alger de Gioachino Rossini, interprété par le Philharmonia Orchestra et dirigé par Carlo Maria Giulini, 7h59 sur France Musique.
Pour tout savoir sur les festivals qui rythmeront votre été, je vous donne rendez-vous dans l'agenda de l'été. Ça se passe du lundi au vendredi de midi à 13h sur France Musique et en podcast sur l'appli Radio France. Bel été!
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
Il est 8h sur France Musique. Et le journal vous est présenté par Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour Charles Payard, bonjour à tous. Amende salée pour les entreprises qui ne contrôlent pas les QR codes dépistage Covid obligatoires des soignants. On connaît désormais le contenu de l'avant-projet de loi relatif à l'extension du pass sanitaire et à l'obligation vaccinale des personnels soignants. Victoria Coussa.
S'ils ne contrôlent pas les passes sanitaires, restaurateurs ou patrons de salles de spectacle risqueront jusqu'à 45 000 euros d'amende et un an de prison. Pour maîtriser le variant Delta, le projet de loi prévoit également d'imposer une quarantaine à toute personne contaminée, 10 jours d'isolement obligatoire, comme le conseille déjà l'assurance maladie, mais là, ce sera inscrit dans la loi. L'obligation de se faire vacciner concernera tout le personnel des établissements de santé, pas seulement les soignants ou ceux qui sont au contact des personnes vulnérables ou malades. Ils devront jusqu'au 15 septembre présenter un dépistage négatif au Covid pour pouvoir travailler. Passé cette date, sans schéma vaccinal complet, ce sera la mise à pied et le licenciement 2 mois après. Concernant le calendrier, le texte arrive lundi en Conseil des ministres, puis le lendemain à l'Assemblée. Le gouvernement espère qu'il sera voté au Parlement avant la fin de semaine prochaine. Il le transmettra ensuite au Conseil constitutionnel pour une mise en application début août, selon Matignon.
Des projets qui ont poussé environ 19 000 personnes, selon les autorités, à manifester hier dans plusieurs villes de France. Liberté, non à la vaccination obligatoire, contre la dictature, on n'est pas des cobayes, pouvait-on notamment entendre dans les défilés. Les dernières données de Santé publique France appuient en tout cas la crainte d'une quatrième vague épidémique. Plus de 8 800 contaminations au Covid ont été enregistrées en 24 heures, une multiplication par deux. En moins d'une semaine, un peu plus de 7 000 patients sont hospitalisés, 115 de plus en 24 heures, 931 sont en soins critiques, contre environ 2000 un mois plus tôt. Conséquence de la pandémie qui a forcé à détourner ressources et personnel vers la lutte contre le Covid, la vaccination des enfants a pris un dangereux retard. C'est selon l'OMS et l'UNICEF un risque de catastrophe absolue si ce retard n'est pas comblé. L'an dernier, 23 millions d'enfants n'ont pas été complètement vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. 3,7 millions de plus qu'en 2019. Plus grave encore aux yeux des deux agences onusiennes, 17 millions d'enfants n'ont sans doute reçu aucune dose. C'est l'un des piliers du plan climat de l'Europe, la réforme de son marché du carbone. La Commission européenne a présenté hier son projet visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du continent de 55% à l'horizon 2030 par rapport à 1990. Des mesures qui concernent les hydrocarbures, les transports ou encore l'automobile, bref, les secteurs les plus polluants. Mais l'outil principal pour atteindre cet objectif, c'est la réforme et l'élargissement du marché du carbone. Un projet qui est loin de faire l'unanimité. Les ONG craignent notamment un effet gilet jaune à l'échelle européenne, Sandy Dauphin.
Il existe un marché carbone européen où s'échangent les permis à polluer pour certains secteurs, électricité, sidérurgie ou encore cimentier. L'idée est d'étendre en 2026 ce marché à d'autres industries très polluantes, le transport maritime, le transport routier et le chauffage. Les fournisseurs de carburant ou de fuel domestique devront donc acheter des quotas d'émissions au prix du CO2. Et ils vont répercuter le prix sur les consommateurs, s'inquiète l'ONG Réseau Action Climat, l'un de ses porte-parole, Nel Makarov.
Lorsqu'ils vont se rendre par exemple à la pompe pour faire le plein d'essence ou de diesel, ou lorsqu'ils se chaufferont au gaz et au fioul, ils vont devoir payer le prix du CO2 qui sera fixé par le marché carbone européen. C'est une proposition qui est, selon nous, extrêmement dangereuse parce que les ménages qui sont piégés, qui n'ont pas le choix que d'utiliser leur véhicule essence ou diesel, ou qui n'ont pas le choix que de se chauffer au fioul et au gaz, vont devoir payer le prix du CO2. Et donc, ça les impactera de plein fouet sur leurs revenus et sur leur pouvoir d'achat.
La Commission européenne promet un accompagnement social avec un fonds alimenté par ce nouveau marché carbone, enveloppe estimée à 70 milliards d'euros sur 7 ans. Pas de quoi rassurer pour l'instant les ONG.
Le gouvernement français, s'il se félicite de ce plan, se dit aussi réservé sur ce dispositif d'extension du marché carbone qui risque de faire augmenter les prix. L'ensemble du projet est loin d'être acté. Il va faire l'objet pendant au moins un an d'âpres discussions entre eurodéputés et États membres. La météo avec encore de la pluie dans le nord-est jusqu'aux Alpes. 4 départements sont en vigilance orange. Pluie, inondation ou crue. Le Doubs, le Jura, la Haute-Marne et la Haute-Saône. Dans le Doubs, en Haute-Saône et en Moselle, des routes et des voies ferrées ont été coupées ce matin par les intempéries. Belles éclaircies, voire grand ciel bleu sur le reste du pays, après une matinée parfois un peu grise. Les températures, 10 à 17 degrés en général ce matin, 18 à 22 près de la Méditerranée, 17 à 26 cet après-midi, 27 à 31 autour de la Grande Bleue. France Musique, 8h05, retour à notre programme musical avec vous, Charles-Pierre Vallière.
Merci Marie-Hélène Duvigneau. Oui, nous avons un petit problème de liaison ce matin. Nous espérons retrouver notre matinale de France Musique en direct de Montpellier pour ce merveilleux festival avec Clément Rochefort. Malheureusement, nous avons un problème de liaison pour le moment. Alors, je propose toujours, eh bien, de patienter en musique avec cette fois-ci, eh bien, un extrait des Esquisses caucasiennes, la suite numéro 1, opus 10, d'un compositeur qui fut jadis donc l'élève de Rimsky-Korsakov, Mikhail Mikhailovitch Hippolytov Ivanov. C'était deux extraits des Esquisses caucasiennes, la suite numéro 1 de Mikhaïl Politov Ivanov sur France Musique. Il est 8h21 et nous avons retrouvé la connexion avec Montpellier et Clément Rochefort qui doit m'entendre normalement en direct de là-bas.
Tout à fait, Charles-Pierre Vallière, je vous entends. Vous m'entendez, vous aussi?
Ah, parfaitement, c'est merveilleux.
Vous savez, il y a beaucoup d'arbres et puis il y a de la tramontane ici. Alors c'est peut-être ça qui a un petit peu empêché notre liaison. Mais on est là, sous le soleil levant de Montpellier, ici, pour deux jours, en direct du Festival de Radio France Occitanie Montpellier, en direct de la locale France Bleu Hérault, qui nous accueille. On est le jeudi 15 juillet, le festival a commencé il y a 5 jours. Il se poursuit jusqu'au 30 juillet avec plein de concerts. On va en reparler, bien sûr. On va aussi recevoir dans quelques instants nos invités du jour, Jean-Pierre Rousseau, le directeur du festival de Radio France Occitanie Montpellier. On aura aussi deux des musiciens du quatuor Hanson, Jules Dussap et Gabriel Laffay. Merci Charles-Pierre Vallière, on vous souhaite une bonne journée. Alors nous ici à France Bleu Hérault, en plein cœur du festival, qui a plein de ramifications cette année, des ramifications Saint-Saëns. On va parler aussi de la jeune génération qui est toujours soutenue par le festival. On aura aussi une journée autour de l'écologie, mais tout ça on va y revenir avec le directeur du festival. Moi j'aimerais qu'on commence tout de suite en musique, puisqu'il y aura aussi une journée Fiesta Latina autour du centenaire d'Astor Piazzolla, et je trouve que c'est une belle façon de commencer une journée caliente. Alors bon réveil, bienvenue à tous, enfin, sur France Musique. France Musique à Montpellier, c'est 92.9.
Thank you.
Un bon petit tango pour démarrer la journée, ça fait toujours plaisir. C'était bien sûr Astor Piazzolla, Michelangelo 70, avec Vincent Maillard au vibraphone et le quatuor Caliente qui est en concert ici au Festival de Radio France. Le quatuor Caliente, c'est Guillaume Odo au bandoneon, Cédric Laurel au piano, Michel Berrier au violon et Nicolas Marty à la contrebasse.
C'est l'été sur France Musique.
Allez, il est 8h26, merci d'être avec nous ce matin en direct de Montpellier. Ben, on reprend tout gentiment le fil de notre émission normale. Et à 8h26, c'est l'heure de notre chronique Frère Jacques.
Et ben alors, qu'est-ce que c'est ?
Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé, électrise.
Nous sommes donc en direct du Festival de Radio France Occitanie-Montpellier. Quelle belle région que l'Occitanie. Une grande région surtout qui va de Montpellier à Tarbes en passant par Perpignan, Toulouse ou Montauban, Narbonne, Albi et j'en passe. Et qui dit Occitanie dit presque nécessairement rugby ou ruby comme on dit ici. Et c'est là que les frères Jacques interviennent. Je voudrais vous faire entendre une chanson extrêmement drôle composée par André Pop sur des paroles de Jean-Claude Massoulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Claude Massoulier, chanteur, comédien, animateur de télévision fantaisiste dans les années 70. La chanson s'appelle « C'est ça le rugby ». Elle met en scène les équipes de Perpignan et de Montauban qui ont l'air, comment dire, un peu consanguines. C'est ça le rugby, chanson de Jean-Claude Massoulier et d'André Pop, interprétée par les frères Jacques. Une jolie manière de parler de Perpignan et de Montauban, deux villes très importantes de la région Occitanie où nous nous trouvons ce matin. Merci d'être avec nous sur France Musique, il est 8h30.
C'est l'été sur France Musique.
Et il est temps d'accueillir nos invités du jour, Jean-Pierre Rousseau, directeur du Festival de Radio France Occitanie-Montpellier. On recevra aussi dans quelques instants deux des musiciens du Quatuor Hanson, Jules Dussap, violoniste, et l'altiste Gabriel Laffay, un quatuor qui est en concert aujourd'hui à midi et demi au Corum de Montpellier. Bien sûr, France Musique est en direct du festival pour toute la semaine, enfin toute la fin de la semaine et puis toute la semaine prochaine. D'ailleurs, ce soir, en direct, vous pourrez suivre le concert du concert spirituel d'Hervé Niquet autour des feux d'artifice royaux de Hendel. Ce sera en compagnie de François-Xavier Chemchak. Bonjour Jean-Pierre Rousseau.
Bonjour Clément.
Merci d'être avec nous ce matin. Le festival a déjà commencé le 10 juillet, il se poursuit jusqu'au 30. Comment ça se passe pour l'instant ?
La foule partout.
Ah ouais.
Le bonheur, et c'est vrai que j'avais proposé comme thème, comme slogan, chaque concert est une fête. Et on est dans cette illustration de ce besoin de se retrouver. Et il y a des moments très forts entre les musiciens, le public, parce que c'est une envie partagée. C'est peut-être maintenant foncer des portes ouvertes de dire qu'on a quand même vécu une période incroyable, dans laquelle finalement on pensait qu'on existait uniquement à travers des écrans. Et c'est vrai que quand le public se dit, mais ils sont en vrai, là devant nous, hier soir, Isabelle Georges était sur le parvis de l'hôtel de ville pour le concert du 14 juillet. Et c'est vrai qu'elle a dit au public, et le public le lui a rendu, mais qu'est-ce que ça fait du bien de vous voir en vrai, des vrais gens. Et ça nous a beaucoup manqué. Et donc, on est vraiment parti sur quelque chose qui est très fort, et je pense qu'il balaye aussi... ce dont on nous rebat les oreilles aussi, les restrictions, les conditions. Je crois que, tout le monde accepte, mais vraiment de bonne grâce et de cœur, parce que tout le monde a compris que c'est aussi la condition pour laquelle, avec lesquelles on doit vivre pendant les temps qui viennent. Et puis surtout, la musique, c'est du bonheur, c'est du plaisir, c'est tout ça. Et c'est ce que on essaie modestement avec nos 155 concerts de faire dans toute la région et à Montpellier.
Oui, alors malheureusement quand même, on peut pas faire comme si la crise n'existait pas, parce qu'elle n'est pas terminée. Jean-Pierre Rousseau, le président de la République s'est exprimé lundi à ce sujet. Mardi, le ministre de la Santé a précisé des nouvelles règles qui vont s'appliquer entre autres au secteur culturel dès la semaine prochaine avec le pass sanitaire obligatoire. Est-ce que ça vous inquiète en termes de fréquentation ? Est-ce que vous avez peur que ça dissuade peut-être des gens de venir ? Et surtout, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que les équipes du festival sont prêtes à faire tous ces contrôles-là ?
Alors, c'est vrai que je n'ai pas compris, je suis pas le seul à avoir pas compris pourquoi le 21 juillet. Oui. Les restaurants, les cafés, c'est le 1er août. Moi, ça m'aurait bien arrangé de pouvoir finir le festival sans ça. On avait déjà prévu de restreindre la jauge. C'est-à-dire que aucun concert ne dépasse 1000 personnes. Alors, on va peut-être pouvoir d'ailleurs étendre un peu maintenant. Moi, je constate que tout le monde, le public, les équipes d'accueil sont... ça se passe très bien, il n'y a pas de contrainte. Alors, la contrainte supplémentaire, c'est qu'en effet, on va devoir faire ce que d'autres festivals comme Avignon, comme Orange ont fait et que j'ai vu pratiquer. Et ça me paraît pas ni attentatoire aux libertés de faire contrôler simplement son pass sanitaire. Pour l'instant, les réactions du public sont très positives. Certains se disent « bon, ben, je vais aller me faire tester ». Mais j'ai pas eu de demande pour l'instant en disant rembourser. j'ai plus envie de venir. Mmh. Puis je crois que la force de cette rencontre, la force de la musique est plus forte. Oui, bien sûr que c'est une contrainte supplémentaire, mais si cette contrainte permet de continuer à vivre ensemble, de continuer à aller au spectacle, de continuer à les festivals, de continuer les concerts, je pense que ça vaut vraiment le coup. Qu'on accepte tous cette petite contrainte. Il y a quand même des contraintes beaucoup plus dures dans la vie que celle-là. Mmh. La contrainte la plus dure étant évidemment de finir dans un trou. Mmh. Parce qu'il faut quand même rappeler que, accessoirement, un vaccin, ça protège. Ça évite d'être malade, d'être gravement malade. Ça résout pas tout, mais faut un tout petit peu de raison garder. Quand j'entends certains arguments, encore certaines manifestations hier à Montpellier, je me dis que là, on délire.
Comparé... 1500 personnes, je crois, qui étaient...
Oui, enfin bon, avec des arguments, quand on voit des étoiles jaunes, enfin, il y a un moment, ça suffit. Hein. Après, on peut penser ce qu'on veut, mais que je sache, quand vous naissez, vous êtes vacciné contre... c'était le BCG, DDT, etc. Maintenant, les gamins, ils ont 11 vaccins. Quoi, on retire les gamins, on fait comment ? Donc, il faut un tout petit peu revenir à la raison, et je pense que aujourd'hui, dire si on veut continuer à vivre en société par rapport à un variant qui est en train de galoper apparemment, eh ben il y a des mesures très simples à prendre et en effet le vaccin fait partie de ces mesures.
Alors on va reparler un peu de musique ensemble et du festival et des réjouissances quand même dont on peut profiter ici à Montpellier. Vous avez fait une programmation cette année qui se tisse autour de multiples journées spéciales. Est-ce qu'on peut développer quelques temps forts ?
Oui, c'est le principe, en fait, en général du festival, c'est-à-dire qu'il y a des concerts qui commencent à 11h, midi et demi, qui vont jusque tard le soir, donc il y a en effet 4, 5, 6 concerts par jour. Là, en effet, sur le thème de cette fête, chaque concert est une fête, il y a une journée qu'on a appelée Fiesta Latina, le 18, il y en a d'autres sur la nouvelle scène, sur les nouveaux artistes. J'allais dire, c'est un peu notre fond de commerce, puisqu'on ne fait que des jeunes artistes. Mais là, c'est un peu mettre en valeur aussi ce rapport. Il y a naturellement des journées qui sont liées à des anniversaires. On fête le centenaire de la mort de Saint-Saëns. C'est d'ailleurs l'occasion aussi de redécouvrir un compositeur dont tout le monde connaît le nom, ou un tout petit extrait musical, hein, l'indicatif du Festival de Cannes. Et puis, en général, on connaît pas beaucoup plus de choses. Et là, on va découvrir. Et puis, je pourrais en citer beaucoup d'autres qui me viennent pas à l'esprit, mais... Voilà, l'idée, c'est de faire un parcours et d'aller de l'un à l'autre. C'est toujours cette idée du festival d'offrir une large palette avec parfois de très très jeunes artistes. Je crois que c'est la dominante de cette année.
Et on va rappeler, Jean-Pierre Rousseau, que le festival s'appelle bien Radio France Occitanie Montpellier. Tout ne se passe pas à Montpellier. On a aussi des artistes qui irriguent dans toute la région. On ne peut pas ne pas citer l'orchestre du Capitole de Toulouse qui donnera 3 concerts dans le cadre du festival.
We'll be right back.
un extrait des tableaux d'une exposition de Moussorgski. C'était La cabane sur des pattes de poule par l'Orchestre national du Capitole de Toulouse sous la baguette de Tougan Sokiev. L'Orchestre du Capitole qui donnera 3 concerts dans le cadre du Festival de Radio France Occitanie Montpellier. Un concert le 23 juillet à Cahors dans la cathédrale Saint-Étienne. Un autre concert à Sorèze. Ce sera le 24, et puis à Lectoure, dans la cathédrale Saint-Étienne de Lectoure, le 25 juillet. Tiens, je suis en train de remarquer qu'il y a beaucoup de cathédrales Saint-Étienne dans la région. Je ne sais pas si ça a un lien. Une programmation très variée, Jean-Pierre Rousseau, on le disait, avec des jeunes interprètes, des journées spéciales, des grands orchestres symphoniques. Peut-être une chose que je n'ai pas vue cette année, c'est un opéra, un grand opéra, une redécouverte, comme c'était un petit peu la tradition les années précédentes.
Et oui, et ben parce que là, c'est l'impossibilité simplement sanitaire de réunir tout le monde pour répéter. Surtout qu'on devait, on avait prévu Bacchus de Massenet, qui est pas un petit opéra. Il y a, je sais pas combien, il y a aussi des orchestres séparés, etc. Donc c'était impossible. En revanche, on va avoir ce qui n'était pas prévu, ce qui était dans la saison programmée dans la saison de l'Opéra National de Montpellier, et que avec Valérie Chevalier, on a décidé de remettre au cœur du festival, c'est une création. La création européenne de Denis et Katia, qui est un opéra de Philip Venables. Alors, c'est une sorte de Roméo et Juliette moderne, puisque c'est une histoire un peu tragique, à vrai dire, qui s'est déroulée, une histoire d'amour qui s'est déroulée uniquement par réseaux sociaux. Une vraie histoire qui s'est déroulée en Russie. Et donc, Philip Venables a fait un ouvrage qui sera mis en scène. Donc, c'est aussi un avantage parce que d'habitude, au festival, ce sont des opéras en version de concert. C'est le 26, 28, 29 à Montpellier. Donc, moi, je vous incite à venir parce que on est aussi les promoteurs de la création. On ne le dit pas assez. On a beaucoup de compositeurs dont on crée des œuvres. On pourrait parler du 21. Une soirée hommage à Piazzolla dans laquelle il y aura une création de Tomasenko qui s'appelle Vol de nuit. Voilà. Donc c'est finalement la création, c'est au cœur du festival. Donc j'invite à venir écouter cet opéra, le seul qu'on a pu programmer cette année dans le festival pour cause de trop plein de musiciens sur scène.
Donc voilà. C'est partie remise pour l'année prochaine. On pourra peut-être l'entendre
de Bacchus. Hein. Je ne sais pas si ce sera Bacchus, mais en tout cas, on va reprendre l'idée des opéras. L'année prochaine, il y aura 2 très belles surprises dans la programmation.
Allez, c'est encore un peu tôt pour le dire. Pour l'instant, on va déjà vivre pleinement et avec passion cette édition 2021. Vous l'avez dit tout à l'heure, une des missions du festival, qui est d'ailleurs une des missions de Radio France, c'est promouvoir, enfin faire monter, émerger des jeunes musiciens. On en a un autour de la table. Enfin, il est plus si jeune que ça. Jules Dussat, bonjour.
Bonjour Clément.
Si, on est encore jeune musicien quand même au Quatuor Hanson. C'est un jeune quatuor encore.
On reste des jeunes musiciens. Alors après, est-ce qu'on est encore un jeune quatuor? Ça fait 8 ans qu'on joue ensemble. Donc oui, on est toujours jeune.
C'est une longue maturation quand même, un quatuor. Hein, voilà, pour arriver à obtenir le son qu'on souhaite avoir.
Ouais, tout à fait. C'est des années de travail et de maturation. Là, on est finalement 8 ans. Ça peut paraître très long, mais effectivement, on est au tout début de notre jeune carrière de quatuor encore.
Alors, vous donnez 2 concerts, vous, cette année, au festival. Il y en a eu un hier, le 14 juillet, un autre tout à l'heure à midi et demi. Est-ce que c'est votre première fois au Festival de Radio France?
Alors, non, on était venus, donc, l'année dernière, mais c'était dans des circonstances assez particulières puisque les concerts du festival avaient lieu en plein air, donc dans la superbe maison internationale et dans des demi-jauges. Et donc pour nous, c'est un peu comme une première fois finalement ici.
Quand on donne comme ça plusieurs concerts dans un même festival, est-ce qu'on en profite? Est-ce qu'on a le temps d'abord pour faire un petit peu de tourisme? Je sais pas, aller se balader dans la région ou découvrir la ville, Montpellier, goûter des produits locaux? Non.
Alors non, malheureusement là, c'est un petit peu court pour ça. Mais on est ravis d'être ici. Et puis on découvre une ville et un festival avec justement l'intensité de donner 2 concerts, enfin 3 concerts d'ailleurs en quelques jours.
Alors on va écouter un petit peu de musique, puisque au programme de vos concerts il y a notamment un quatuor de Haydn qui est un petit peu le compositeur qui vous occupe ces derniers temps, en tout cas qui occupait votre tout premier album qui est sorti il y a quelques mois, consacré entièrement à Haydn. En voici un extrait, je trouve qu'il est adapté pour le matin puisque le quatuor est sous-titré « Comment allez-vous ?» Un extrait du deuxième mouvement Largo e Cantabile du Quatuor en sol majeur, l'opus 33 numéro 5 de Haydn, Quatuor sous-titré. Comment allez-vous? Comment allez-vous, Gabriel Lafay, altiste du Quatuor Hanson?
Eh ben, ça va très bien.
On se réveille tranquillement.
Voilà, c'est ça. On est très content d'être ici, comme l'a dit Jules, et ça nous fait vraiment plaisir de faire ces concerts à Montpellier et de faire toute cette tournée d'été, que les concerts reprennent. On est plus que ravis de retrouver la scène et le public, en tout cas.
Est-ce qu'on se lève tard quand on joue en festival?
Plutôt pas.
Ou on a pas vraiment.
Non, mais sauf quand on a une interview à la radio, bien sûr. Mais en temps normal, est-ce qu'on prend son temps un petit peu le matin?
Ça dépend. C'est vrai que si on reste plusieurs jours, on arrive à un peu organiser notre quotidien et puis pouvoir un peu gérer notre temps, notre repos. Et c'est vrai que c'est plus difficile quand on va enchaîner les concerts, donc avec les trajets, les trains le matin. Mais en même temps, c'est l'aventure.
Ça fait partie de l'aventure.
C'est
quoi le... Ça fait longtemps que vous aviez pas réécouté ce disque. Vous me disiez, oh là là, mais oh là là, c'est la première fois qu'on le réécoute.
On va dire que c'est plus agréable de le réécouter maintenant que quand on avait la tête dedans et qu'on était.
Qu'on travaillait chaque détail.
Qu'on travaillait chaque détail. Là, c'est vrai qu'on se dit, en fait, c'est pas mal.
Et parce que quand on enregistre un disque, au bout d'un moment, on devient obsédé par, y a rien qui va, c'est ça. On trouve toujours un truc à redire.
En même temps, il faut trouver une certaine distance pour qu'on ait quand même, on garde la grande forme et qu'on garde beaucoup de musicalité et pas se focusser sur les tout petits détails. Donc voilà, c'est une balance à trouver, mais en tout cas, ça nous a bien appris, en tout cas, le disque Haydn pour le prochain disque qu'on est en train de préparer pour pouvoir rentrer.
Alors là, je suis content parce que j'allais vous poser la question parce que vous avez quand même mis 6 ans à nous enregistrer votre premier disque. On l'attendait avec impatience. Et ma question, c'était, est-ce qu'on va languir aussi longtemps, 6 ans, pour avoir le deuxième? On peut dire ce que c'est déjà le deuxième
ou
pas encore?
Oui.
Ah, ça va être quoi?
Alors, ça va être, donc là, ça n'a rien à voir. On a enregistré le premier quatuor de Ligeti, le deuxième quatuor de Bartok et ainsi la nuit de Dutilleux.
Ah, bah d'ailleurs Bartok, donc c'est plutôt musique du 20e.
Plutôt musique
voilà,
du 20e.
Et Bartok qui est au programme aussi des concerts que vous donnez ici à Montpellier, que vous avez mis d'ailleurs en miroir avec Haydn.
Tout à fait.
Ça se parle bien, Haydn et Bartok?
Haydn et Bartok, c'est deux musiques qui se parlent bien. C'est quelque chose qu'on a toujours défendu, en fait, le fait de mettre en miroir du grand répertoire classique, que ce soit du Haydn ou du Mozart, avec des œuvres du XXe siècle. On l'a souvent associé à Webern, à Ligeti. Et c'est, pour nous, c'est vraiment très important de mettre ces deux esthétiques en miroir.
Au programme à Montpellier, ici, il y aura même une pièce d'un contemporain, Toshio Ozokawa.
Ouais.
Voilà. Je crois que c'était au concert d'aujourd'hui.
C'est au concert de midi et demi, oui.
Les pinceaux entre le concert d'hier et celui d'aujourd'hui. On va dire un petit mot de Haydn parce que c'est le compositeur qui est star de votre premier album. Et vous écrivez un très long texte à l'intérieur du livret pour parler de Haydn comme de votre compagnon privilégié. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais comme à peu près 200% des quartettistes, qu'est-ce qu'il a fait, Haydn, pour mériter autant d'amour de la part de tous les quatuors à cordes?
Déjà, il a énormément écrit pour le quatuor à cordes. Et en fait, on a beaucoup déchiffré, on a beaucoup joué et travaillé de ces quatuors. Et en même temps, en déchiffrant, on a trouvé plein de pépites. En fait, tout est chouette et tout est bien écrit. Et En même temps, c'est vraiment la base en fait du langage du quatuor à cordes, les instruments dialogue, et en fait ça nous a servi pour aborder après tout le répertoire. Là on parlait de Bartok, au final on retrouve aussi ces dialogues, ces éléments de langage et la langue, en fait c'est très intéressant.
Oui, pardon.
On peut
dire que c'est vraiment lui qui a inventé le genre moderne du quatuor à cordes en sortant de la formule d'un premier violon concertant et de trois instrumentistes qui sont plus dans un rôle accompagnant. Là, chez Haydn, on a vraiment un dialogue permanent, une musique qui vit entre quatre instrumentistes.
On va se quitter avec un autre extrait de votre disque Haydn. C'est le final du quatuor numéro 23. C'est une belle fugue. J'adore ce mouvement-là. Juste quelques secondes pour nous dire s'il y a d'autres projets l'été après le festival de Radio France. Vous allez courir les routes. Le carnet de bal est rempli.
Le carnet est rempli.
On va aller, tout de suite après, on va à Pont-Croix, en fait. On va jouer avec Adam Laloum, Ismaël Marguin et puis Marie-Laure Garnier. On va aussi au festival de Guétari cet été. On va jouer avec Aurel Martin,
le pianiste.
C'est ça, Renaud Capuçon, Edgar Moreau et puis à Deauville également. Et un peu partout,
festival de Debussy. Vous pouvez retrouver ça sur notre site internet.
Il est très bien fait, je peux le confirmer. Merci à tous les deux d'être venus nous voir au réveil ce matin ici à Montpellier. On vous retrouve tout à l'heure à midi et demi. Et on se quitte avec le papa du quatuor, Haydn évidemment. Belle fugue, ça fait toujours du bien une belle fugue, ça recentre je trouve le matin. C'était la fugue finale du 23e quatuor en fa mineur, l'opus 20 numéro 5 de Haydn par le quatuor Hanson, et c'est à l'image finalement de l'été du quatuor Hanson, une fugue. Ils sont en fugue sur les routes, hein, c'est ça Gabriel?
Oui c'est ça, donc voilà. On va pas s'arrêter.
Allez, surtout pas, on vient de reprendre, on va surtout pas s'arrêter maintenant. bien, on arrive au terme de cette courte émission, malheureusement un petit peu écourtée ce matin en direct de Montpellier. Mais on est ravis d'être là. Jean-Pierre Rousseau, un dernier petit mot à tous les festivaliers, ceux qui nous écoutent, pour leur souhaiter un bon festival.
La musique, c'est une fête. Chaque concert est une fête. Donc venez faire la fête avec nous.
Voilà, bah voilà, tout simplement. Venez faire la fête à Montpellier. Et si vous n'avez pas la chance de descendre à Montpellier, vous n'avez qu'à tourner le bouton, à vous connecter sur internet francemusique.fr, puisqu'on est en direct depuis aujourd'hui et toute la semaine prochaine, avec des concerts qui sont enregistrés, bien sûr, qui seront diffusés un peu plus tard, mais aussi des concerts en direct tous les soirs de la semaine, quasiment. C'est à 20h et c'est sur France Musique. Demain matin, j'aurai le plaisir d'être de nouveau ici en direct des studios de France Bleu Héros, en direct du festival de Montpellier Occitanie, fidèle de Radio France Occitanie Montpellier. Ça change tous les ans. On sait plus dans quel ordre les mettre. Voilà, le From, tout simplement From where, From Montpellier, bien sûr, From France Bleu Héros en l'occurrence. J'aurai le plaisir de recevoir un quatuor d'un autre genre. C'est le quatuor Eclisse, un quatuor de guitare. On recevra deux des membres du quatuor Eclisse, Pierre Lelièvre et Gabriel Bianco. Restez à l'écoute de France Musique et la journée ne fait que commencer. Dans quelques instants, à 9h, vous retrouvez l'été classique avec Aude Gigère. Est-ce qu'elle nous entend, Aude, de Paris?
Je vous entends.
Est-ce qu'il fait beau à Paris? Parce que je peux vous dire qu'ici, à Montpellier, on est sous un soleil de plomb déjà.
Ah, quelle chance. Nous, c'est pas encore ça. Mais ça va arriver.
Oui, mais vous allez mettre du soleil un petit peu dans la programmation musicale ce matin.
Oui, on va avoir du Bach, du Beethoven, du César Franck, du Fauré, du Debussy, plein de soleil.
Ah oui, bah de la musique française, eh bah c'est bien. Merci Aude Gigère, on vous retrouve dans quelques instants à 9h. Quant à moi, eh bien, je remercie toute l'équipe qui m'entourait ce matin, en particulier Alex Billard. Je voudrais faire un énorme poutou à Alex Billard qui a fait au moins 200 km entre les deux studios de France Bleu Héros pour essayer de nous rétablir la liaison, et il a fini par réussir. Bravo Alex. Merci aussi à Charles-Pierre Vallière qui était en secours à Paris. Merci à Marion Guillemet, Florian Henault, Flora Sternadel et Philippe Petit à la réalisation. Je vous souhaite une bonne journée sur France Musique. Je vous embrasse, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.